Bonjour à tous. Amélie Nothomb est une auteure connue de tous. Son nom, en tout cas, est déjà au moins une fois parvenu à vos oreilles. Mais ses romans n'ont peut-être pas fini entre vos mains. Tout comme moi, jusqu'à il y a peu. Je cherchais un petit roman à lire rapidement et je suis tombée sur Le crime du comte Neuville, paru en 2015. C'est ainsi que j'ai découvert un bout de son univers. Amélie Nothomb se prénomme en fait Fabienne Claire. Romancière francophone, elle est née en juillet 66 au sein d'une famille de la noblesse belge. Arrière-grand-père paternel, écrivain et homme politique, père diplomate envoyé en tant que consul général au Japon, puis en Chine, à New York ou en Asie du Sud-Est, la petite fille est de tous les voyages. Plus tard, elle suit des études de droit puis de philologie romaine. Elle envisage de faire carrière comme enseignante et obtient l'agrégation qui lui permettra d'officier. C'est après un retour au Japon pour rejoindre son père nommé ambassadeur de Belgique à Tokyo qu'elle obtient la matière nécessaire pour écrire deux de ses romans, qu'elle publiera bien plus tard, en 1999 et 2007. Mais c'est en 1992 qu'elle se fait connaître avec « Hygiène de l'assassin ». D'abord mal compris, cet ouvrage lui ouvre la voie et depuis elle publie de façon très régulière à hauteur d'un livre par an. Elle se qualifie d'ailleurs de graphomane et régulièrement enceinte de ses romans. Le crime du comte Neuville est édité en 2005 entre Pétronille et Riquet à la Houppe. Si l'on avait annoncé au comte Neuville qu'il se rendrait un jour chez une voyante, il ne l'aurait pas cru. Si l'on avait précisé que ce serait pour y chercher sa fille qui aurait fait une fugue, cet homme sensible se serait évanoui. Un genre de secrétaire lui ouvrit et le conduisit jusqu'à une salle d'attente. On se serait cru chez le dentiste. Neuville s'assit, très raide, et regarda avec perplexité les motifs tibétains qui décoraient les murs. Quand il se retrouva dans le cabinet de la voyante, il demanda aussitôt où était sa fille. « La petite dort dans la pièce d'à côté », répondit la dame. Neuville n'osa parler. La voyante, une femme sans âge, énergique, rondelette, d'une extrême vivacité, reprit la parole. « Hier, après minuit, je me promenais dans la forêt non loin de votre domaine. La lune éclairait presque comme en plein jour. C'est là que je suis tombée sur votre fille, roulée en boule, qui claquait des dents. Elle n'a rien voulu me dire. Je l'ai convaincue de m'accompagner. Elle allait mourir de froid si elle restait dehors. Arrivée ici, j'ai voulu vous appeler tout de suite pour vous rassurer. Elle a dit que c'était inutile, que vous n'aviez pas remarqué sa disparition. » « C'est exact. J'ai donc attendu ce matin pour vous téléphoner. » « Comment est-il possible que vous n'ayez pas remarqué l'absence de votre fille, monsieur ? Elle a dîné avec nous et puis elle est montée dans sa chambre, comme chaque soir. Elle a dû sortir quand nous étions déjà couchés. Comment était-elle au dîner ? À son habitude, elle n'a pas prononcé un mot, n'a guère mangé et n'a pas semblé en grande forme. » La voyante soupira. « Ça ne vous inquiète pas d'avoir une fille dans cet état ? Elle a 17 ans. L'explication vous suffit ? » Neuville fronça les sourcils. « De quel droit cette femme l'interrogeait-elle ? « Je me doute que mes questions vous choquent, mais c'est moi qui ai trouvé votre fille dans la forêt en pleine nuit. Comprenez mon étonnement. Je lui ai demandé si elle avait un rendez-vous amoureux, elle m'a regardé avec stupéfaction. Ce n'est pas son genre, en effet. »« C'est quoi son genre ?»«
Je ne sais pas, c'est une adolescente taciturne. »«
Vous n'avez jamais pensé à lui procurer une aide psychologique ?»«
Elle est renfermée, ce n'est pas une maladie. »«
Monsieur, je vous trouve étrangement peu inquiet. »
Neuville réprima sa colère d'être jugé par une inconnue. Ce matin, quand la voyante lui avait appris la nouvelle au téléphone, il avait été bouleversé. Mais il n'était pas homme à montrer ses émotions.
« Je me mêle de ce qui ne me regarde pas, d'accord, » reprit-elle. « Vous l'auriez vue grelottant seule dans la forêt. Cette petite me touche. Elle est si mal dans sa peau. Je me demande si vous vous intéressez assez à ses ressentis. » Le dernier mot frappa le comte comme une gifle. Sensations ou impressions remplissaient pourtant parfaitement leur rôle. Il fallait qu'ils éprouvent des ressentis. Neuville était allergique à ce vocable aussi ridicule que prétentieux. La voyante perçut son irritation et se dit que le coup avait porté. Ce père prendrait désormais ses responsabilités plus au sérieux. Neuville se leva, l'air de penser qu'il en avait assez entendu. La voyante le rejoignit et lui saisit la main en un geste d'enthousiasme, comme pour lui signifier qu'elle était de son côté. Mais elle changea d'expression en lui touchant la paume. « Vous allez bientôt donner chez vous une grande fête, » dit-elle. « En effet. Lors de cette réception, vous allez tuer un invité.
Pardon !» s'écria le comte qui blêmit.
La voyante lâcha sa main et sourit. « Rassurez-vous, tout se passera à merveille. Suivez-moi, nous allons réveiller votre fille. »
Cette prophétie torture le comte tout au long du roman. Bien qu'il se défende de croire en ses fadaises, comment ne pas penser au meurtre prédit? Et qui devrait-il tuer d'abord? Aucun de ses invités prévus lors de cette dernière soirée organisée au château en guise d'adieu ne mérite d'être assassiné. Surtout juste avant la vente de ce patrimoine qui compte tant pour cet homme qui n'a plus les deniers nécessaires pour l'entretenir. Henri, le comte, tente de ne penser qu'à sa fille qui vient de récupérer, mettant de côté ses mots qui le chamboulent. Mais de retour au château de Pluvier, personne n'évoque l'incident et tout se déroule comme si de rien n'était. Ou presque. Le comte passe ses nuits à se questionner. Et si, au lieu de laisser les folles prédictions se produire, il prenait les choses en main et choisissait qui, ce fameux soir, sera tué de sa main? Et comment? Isolé dans son bureau, avec pour seule compagne l'insomnie qui le tenaille, il passe donc en revue sa longue liste d'invités et décide qui sera sa victime. Il organise petit à petit le scénario qui lui semble parfait, mais sa fille, sérieuse, vient troubler sa solitude, lui arrachant les vers du nez et découvrant ce que son père trame. Et puisqu'elle n'est finalement pas heureuse, que les prédictions de la voyante doivent se produire, pourquoi ne pas en profiter? Avec finesse et acharnement, elle réussit à faire promettre à son père de la tuer elle plutôt qu'un autre. Elle s'immisce même dans l'orchestration de sa propre mort. Comme bien souvent, les projets les mieux ficelés sont ceux qui ne se déroulent pas du tout comme prévu. Il va y avoir un mort, en effet, mais peut-être pas celui qu'on attendait.